Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs. Aujourd'hui, dans ce balado express, nous allons revenir sur le mémoire qui a été déposé par le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale dans le cadre des consultations du projet de loi 15 sur la protection de la jeunesse. Je suis Simon Lapierre, je suis aujourd'hui en compagnie de mes collègues Isabelle Côté et Alexandra Vincent. Bonjour Isabelle, bonjour Alex.
Salut, bonjour vous deux.
Alors, on va revenir dans les prochaines minutes sur le mémoire qui a été déposé récemment dans le cadre des consultations sur le projet de loi 15 qui vise à réformer la loi sur la protection de la jeunesse. Ce mémoire-là a été déposé par le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale, mais on a pensé que ça valait peut-être le coup de un peu remettre en contexte là, quel est ce comité et quel est le mandat de ce comité. En fait, le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale a été créé par le bureau du coroner en 2018. Et ce comité-là regroupe une représentante d'une vingtaine d'organismes qui travaillent là, de près ou de loin à lutter contre la violence conjugale. Et ce mandat-là, ce comité-là, en fait, se rencontre là, sur une base régulière dans le but d'examiner, comme son nom l'indique, d'examiner des décès liés à la violence conjugale. Mais de manière plus spécifique, le comité veut un peu regarder quels sont les grands constats qu'on peut faire lorsqu'on examine des situations de décès en contexte de violence conjugale. Quels sont les enjeux systémiques qui ressortent aussi de ces situations-là? Quels sont les facteurs de risque et les facteurs de protection qu'on est en mesure d'identifier, qu'on pourrait éventuellement mobiliser dans les interventions? Et finalement, essayer de voir dans le temps, est-ce qu'il y a des tendances là, qui émergent et sur lesquelles on devrait se pencher de manière plus approfondie? Le comité en question a déposé son premier rapport en décembre 2020. Dans ce premier rapport, le comité s'est vraiment penché sur un ensemble de situations de décès dans un contexte de violence conjugale. Et pour l'année 2021-2022, donc l'année en cours, le comité a fait le choix de se pencher plus spécifiquement sur les décès d'enfants dans un contexte de violence conjugale. Et je me suis personnellement joint au comité dans le cadre de ce mandat-là, là, qui examinait plus spécifiquement des décès d'enfants. Et il y aura éventuellement un rapport qui sera déposé à la fin de cette année. Mais dans la foulée là, de la réforme de la loi sur la protection de la jeunesse, avec le dépôt du projet de loi 15, les consultations, le comité a pris la décision de se pencher plus spécifiquement sur une cohorte de décès, de situations qui impliquaient des décès d'enfants où la DPJ a été impliquée, ou du moins là, où il y avait eu des signalements faits à la direction de la protection de la jeunesse qui avaient été ou non retenus. Et c'est vraiment le résultat de cette analyse-là qui a fait l'objet d'un rapport intérimaire ou d'un mémoire qui a été déposé dans le cadre des consultations il y a quelques semaines. Alors Isabelle, est-ce que tu veux nous parler un peu de ces situations-là en question qui ont fait l'objet d'une analyse par le comité?
Oui, donc le comité a examiné 5 situations qui impliquent 7 enfants âgés entre 10 mois et 8 ans. Et ces enfants-là ont été tués soit par leur père ou leur beau-père. Et une des tâches, en fait, du comité, c'était de recenser le nombre de facteurs de risque qu'on retrouvait dans ces situations-là. Et les facteurs de risque, en fait, on les recense en ciblant les caractéristiques des victimes, donc les mères dans ce cas-là, et des auteurs de violence. Là. Et dans les 5 situations, le comité a recensé entre 12 et 28 facteurs de risque. Et on s'entend, là, c'est énorme comme chiffre. Là. Si on a 2-3 facteurs de risque dans une situation, généralement, c'est suffisant pour lever des drapeaux rouges. Je ne sais pas pour vous, là, moi, j'ai été assez consternée de voir qu'il y en avait autant. Et comme il y en a beaucoup, ben là, on ne peut pas tous les nommer, mais j'avais envie de cibler ceux qui sont présents dans toutes ou presque toutes les situations. Donc, dans toutes les situations qui ont été examinées, on retrouve des antécédents de violence conjugale, des menaces de mort envers la mère et le fait que les mères avaient des craintes à l'égard de l'agresseur. Ça, c'est commun à toutes les situations. Et en fait, ce n'est pas très surprenant, ces facteurs de risque-là, parce qu'on le sait que des antécédents de violence conjugale, c'est un des facteurs de risque les plus importants dans les situations où les femmes et les enfants sont tués. Les recherches le démontrent très, très clairement. Même chose avec la question des menaces de mort, la crainte, les craintes que les mères ont exprimées. Ça, en soi, ça serait assez pour qu'on mette en place des mesures de sécurité, déclencher des cellules de crise. On a, selon moi, on n'a pas besoin de se rendre à 28. Là. Des fois, d'avoir deux ou trois facteurs de risque, c'est assez inquiétant en soi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Ben oui, tout à fait.
On remarque aussi que dans presque toutes les situations, donc 3 ou 4 des 5, ce qu'on constate, c'est que il y avait comme facteur de risque une séparation récente ou imminente. Ça aussi, c'est un des facteurs de risque qui est très bien documenté d'un point de vue scientifique. Le fait que l'entourage de la victime craint l'agresseur, ça aussi, c'est un autre facteur de risque. Et le fait que les mères et les pères ne s'entendent pas sur la garde des enfants et les droits de visite. Et on en a parlé dans notre balado sur la différence entre les conflits et la violence, mais c'est normal dans ces situations-là que les parents ne s'entendaient pas sur les modalités de garde. Et on peut très bien comprendre pourquoi ces mères-là devaient, puis là, on ne peut pas le savoir, là, mais devaient possiblement s'opposer au contact. On peut comprendre qu'elles avaient de très, très bonnes raisons dans ces situations-là. Il y a aussi dans toutes ces situations-là des comportements violents et contrôlants de la part des auteurs d'homicides. Puis là, on ne rentre pas dans la liste parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Mais je pense que ce qu'il faut mentionner, c'est que le fait que l'agresseur consomme ou a un problème de santé mentale, c'est relevé comme facteur de risque dans certaines situations. Puis je pense que c'est important de clarifier que ce sont des facteurs de risque, mais ce ne sont pas les causes de l'homicide. Puis souvent, des fois, il y a une confusion autour de ces choses-là. Les gens pensent parce qu'il y a un problème de consommation ou de santé mentale, c'est la raison qui fait en sorte que ces hommes-là ont tué leurs enfants. On le sait qu'un agresseur qui consomme est un agresseur qui est potentiellement plus dangereux, mais ça n'amène pas un père qui est respectueux à tuer ses enfants du jour au lendemain. Et c'est la même chose avec la santé mentale. Donc, un père qui souffre de dépression ou qui a des idées suicidaires n'est pas nécessairement dangereux pour ses enfants du jour au lendemain, mais un père qui est violent va l'être parce que dans les situations de violence conjugale, un agresseur qui, par exemple, est suicidaire, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, en fait. Donc, je trouve ça important de mentionner qu'il ne faut pas confondre facteur de risque avec la cause. Puis peut-être aussi une autre chose sur laquelle j'aimerais peut-être attirer l'attention des gens qui vont nous écouter, c'est qu'au-delà des facteurs de risque, une autre des tâches du comité, ça a été de recenser, ça a été quoi les services qui ont été reçus par les mères et les agresseurs dans ces situations-là, soit les pères ou les beaux-pères. Il n'y a aucun d'entre eux qui ont reçu des services des organismes d'aide pour conjoints violents. C'est quand même important de le dire. Mais en fait, je pense que ce qui est triste et ce qui est frustrant dans ces situations-là, c'est qu'il y a des professionnels qui étaient impliqués auprès de ces mères-là et certains de ces pères-là, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé en fait, mais on peut penser que est-ce qu'ils ont fait un bon travail ou non, on ne le sait pas, mais chose certaine, ce qui a été mis en place n'a pas permis de prévenir les situations. Donc, dans 4 des situations, les policiers ont été en contact avec les mères et dans 3 situations avec l'agresseur. Et comme tu l'as mentionné, Simon, toutes ces situations-là étaient suivies par la DPJ. Dans 2 de ces situations-là, le signalement n'a pas été retenu. Et dans les 3 autres, on n'a pas tous les détails, mais il y avait un dossier d'ouvert. Et évidemment, plusieurs signes qui sont passés sous le radar là, des intervenants de la DPJ. Et quand on sait qu'il y avait entre 12 et 28 facteurs de risque par situation, moi, ça m'indigne là, de voir qu'on ait pu passer à côté d'autant de drapeaux rouges.
À la lumière de Isabelle, tout ce que tu mentionnes, et justement le fait que la DPJ est impliquée dans toutes ces situations-là d'enfants qui ont été assassinés par leur père, le mémoire conclut avec la recommandation, à l'instar de 5 autres mémoires qui ont été déposées, il faut le dire aussi, dans le cadre des consultations et des audiences publiques en lien avec le projet de loi 15, le mémoire conclut avec cette recommandation-là qui est de créer un motif de compromission distinct pour les enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale. Donc, ce que les auteurs proposent, c'est de sortir l'exposition à la violence conjugale de la catégorie mauvais traitement psychologique. ce qui est présentement dans la LPJ. Et cette recommandation-là fait écho à la recommandation 132 du rapport Rebâtir la confiance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça faisait partie de ce rapport-là là, du comité d'experts sur les violences conjugales et violences sexuelles qui avait été déposée en décembre 2020, considérant la fréquence des situations de violences conjugales, que c'est plus de 20 % des situations de mauvais traitement psychologique, considérant aussi l'ampleur des conséquences de la violence conjugale sur la sécurité et le développement des enfants. Les membres du comité rappellent l'importance de reconnaître aussi les enfants qui vivent en contexte de violence conjugale en tant que victimes à part entière. Donc ça, c'est quelque chose qui est souligné dans le mémoire et ce qui est aussi reconnu dans la politique québécoise d'intervention en matière de violence conjugale quand même depuis 1995, mais évidemment, il y a une problématique à ce niveau-là qui est toujours présente malgré cette politique-là. Je voulais mentionner, selon le mémoire, cette modification-là à la loi, il devrait s'y greffer d'autres mesures, des mesures supplémentaires pour permettre aux intervenantes de protection de la jeunesse de mieux identifier, mieux évaluer les situations de violence conjugale et le risque homicidaire. Et les auteurs mentionnent le besoin que la définition de la violence conjugale soit plus claire, qu'elle soit en cohérence avec celle de la politique de 95 et aussi en cohérence avec la loi récente là, sur le divorce. Elle devrait aussi inclure les multiples manifestations de contrôle, de violence qu'on voit souvent avant, pendant et après la séparation. Et cette modification-là, toujours de la catégorie distincte pour la violence conjugale, elle devrait attribuer la compromission de la sécurité et du développement de l'enfant aux parents violents et non pas aux deux parents ou aux parents victimes. Donc ça, c'est quelque chose qui va encore plus loin. Il ne faut pas oublier ça. On ne peut pas juste s'arrêter au fait que l'exposition à la violence conjugale sorte des mauvais traitements psychologiques, mais il faudra envisager par exemple, faire des plans d'intervention distincts pour le parent violent et un autre pour le parent victime, mais que ce soit de pratiques courantes dans ces situations-là. Les auteurs estiment qu'en dissociant la violence conjugale des mauvais traitements psychologiques, ça pourrait diminuer les risques de confusion entre la violence conjugale et le conflit parental et aussi la confusion qu'on a abordée dans beaucoup de nos balados entre la violence post-séparation et les conflits sévères de séparation. Pour finir, selon le mémoire et selon beaucoup de personnes qui partagent là, cette avenue là, de modifier et d'avoir un motif distinct pour l'exposition à la violence conjugale, ça va favoriser une intervention efficace et une plus grande cohérence entre les différentes ordonnances et les mesures qui sont prises dans les différents secteurs sollicités par les situations de violence conjugale, par exemple protection de la jeunesse, lorsqu'il y a aussi le droit de la famille qui est impliquée et parfois aussi des interdits de contact ou d'autres mesures là, où est-ce que le droit criminel est impliqué.
Merci Alex. Donc, une recommandation forte, mais à laquelle là, se greffe un certain nombre d'éléments qui sont aussi essentiels. J'aurais le goût de vous entendre, Alexandra, Isabelle, vous travaillez les deux sur cette question-là de l'intervention en matière de violence conjugale dans le secteur de la protection de la jeunesse. Vous participez à la formation PEVC. Alexandra, ta thèse de doctorat porte spécifiquement sur cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez des recommandations là, qui ont été formulées dans le cadre de ce mémoire-là?
Ben moi, j'appuie fortement la recommandation. Puis comme on a dit, tu sais, oui, la recommandation, mais tout ce qui s'y greffe aussi, là, c'est détaillé dans le rapport, là, je ne vais pas détailler ici, mais aussi, c'est quelque chose qui est nécessaire, important, mais peut-être juste rappeler que ça fait longtemps que dans le milieu des violences conjugales, l'intervention auprès des enfants, auprès des parents victimes, c'est quelque chose qui a été soulevé comme problématique, là, le fait que l'exposition à la violence conjugale soit une forme potentielle parmi tant d'autres, y compris le conflit conjugal sous l'angle des mauvais traitements psychologiques. C'est problématique et ça fait depuis plus de 15 ans que des gens le soulèvent. Et même au moment des discussions et des audiences, qu'on a toutes fait le tour là, en 2006, beaucoup d'organismes et de regroupements, notamment des victimes de violences conjugales, expliquaient qu'elles étaient réticentes à ce que l'exposition à la violence conjugale fasse partie d'une catégorie des mauvais traitements psychologiques. Elles étaient contentes qu'on reconnaisse la violence conjugale à un niveau social, politique et de protection de la jeunesse, mais elles étaient réticentes, surtout si ce n'était pas accompagné d'un budget et de formation. Donc, ça a été problématique pour les 15 dernières années et j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne.
Mm-hmm. Ouais. Ben, moi, de mon côté, je pense que oui, puis j'appuie, je pense que ça serait un changement qui est important, mais je pense, puis je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que pour moi, c'est une mesure parmi d'autres. Je ne pense pas que juste ce changement-là en soi, ça soit suffisant. Encore faut-il être capable de bien évaluer ces situations-là, d'être formé à la violence conjugale, parce que si on a beau avoir un motif de compromission, mais si les intervenants ne comprennent pas bien la problématique, ne sont pas capables de la détecter, bien, on n'est pas plus avancé non plus. Fait que moi, je pense que ça serait un changement positif, ça serait certainement un pas dans la bonne direction, mais il va falloir d'autres mesures pour que ces situations-là soient bien évaluées et que les interventions soient adéquates. T'en penses quoi, Simon?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous amenez tous les deux. Ben, évidemment, comme membre du comité, je suis évidemment en accord avec le rapport et avec les recommandations. J'ajouterais peut-être seulement que pour moi, il y a aussi une préoccupation en termes de cohérence gouvernementale. On a vu quand même au cours des dernières années, pour toutes sortes de raisons, là, notamment la vague de féminicide a clairement fait bouger des choses, mais on a vu quand même au cours des dernières années une volonté, je pense, au niveau du gouvernement provincial de mettre en place davantage de choses pour assurer une meilleure intervention auprès des victimes de violences conjugales, assurer une meilleure protection des victimes de violences conjugales. On peut penser aux tribunaux spécialisés, on peut penser on parle présentement des bracelets anti-rapprochement, on a eu aussi des modifications au niveau fédéral, aussi au niveau de la loi du divorce, on a eu des propositions au niveau de modifier le Code civil au Québec. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'avancées, je pense, en matière de violence conjugale. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, la protection de la jeunesse a été un peu laissée de côté dans ce mouvement-là, ou en tout cas, n'a pas participé, disons, très activement à ce mouvement-là. Et malheureusement, on risque de se retrouver un peu comme certains auteurs le décrivent, hein, on est un peu sur des planètes différentes, même si ces familles sont confrontées, un peu comme tu le disais, Alexandra, il y a le droit de la famille, il y a le criminel, il y a la protection de la jeunesse, même si les familles doivent évoluer souvent dans ces trois sphères-là de manière simultanée, souvent ces sphères-là fonctionnent un peu comme trois différentes planètes, il n'y a pas nécessairement une cohérence entre elles. Et malheureusement, je pense que si on ne fait pas ce pas-là dans la bonne direction au niveau de la protection de la jeunesse pour une meilleure reconnaissance de la violence conjugale, ben on va continuer de perpétuer ce problème-là, de dire bon, on a des avancées en droit familial, on a des avancées en droit criminel, mais la protection de la jeunesse continue d'évoluer sur une planète un peu différente où on n'aura pas le même genre d'avancée. Donc, pour moi, c'est un peu un incontournable et le gouvernement devrait, là, dans un souci de cohérence gouvernementale, amener aussi ces modifications-là au niveau de la protection de la jeunesse. Alors, je vous remercie pour ce petit balado express. On verra, hein, on va garder l'œil ouvert. Je pense qu'on a des signaux intéressants de la part du ministre Carman, là, entre autres, qui semble avoir entendu les recommandations qui ont été faites par le comité, mais aussi, Alexandra, comme tu mentionnais, par de nombreux autres mémoires dans le cadre des consultations pour le projet de loi 15. Mais je pense qu'il va falloir quand même garder l'œil ouvert pour voir comment tout ça va se traduire dans la réalité. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter dans un autre balado prochainement.
Merci d'avoir écouté ce balado express. Nous vous invitons à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et n'hésitez pas à partager le balado et nous partager vos commentaires à travers les réseaux sociaux.